Quel pré-bilan pour la saison 2023? Le point sur la saison estivale, les projets d'aménagement, l'impact de l'inflation et de l'augmentation des taux d'intérêt sur le budget de la commune. Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré Bernard Liperini, maire de Castellane.
Avez-vous une idée du bilan de la période touristique 2023?
L'année de la saison touristique 2023 restera pas dans les annales. On a eu beaucoup moins de monde. Je chiffre la perte de population touristique à peu près 5000 personnes, ce qui est significatif quand même. D'habitude, on tourne entre 18 et 20 000 personnes pour Castellane. Cette année, on sera entre 12 et 15 000. L'année dernière, ça avait déjà été une petite saison, mais on avait trouvé des explications. Le manque d'eau, il n'y avait pas d'eau dans le lac, il n'y avait pas d'eau dans le verre d'eau. Cette année, il y avait de l'eau dans le lac, il y avait de l'eau dans le verre d'eau. Donc la saison aurait dû être conforme à ce qui s'était passé les autres années, sauf qu'on ressent quand même qu'il y a une vraie crise économique. La population qui vient résider ici l'été, elle vient souvent du nord. Et à 2 euros le litre de gasoil ou d'essence, effectivement, ça fait cher de venir passer les vacances à 1000 km ou à 1200 km. Donc je pense qu'il y a un vrai problème de fond, qui est un problème économique, un problème financier, un problème de confiance aussi, ça joue aussi sur les vacances. Et notre village a accueilli beaucoup moins de monde. Après, il a fait beau de partout également, hein, donc les touristes, ils se diffusent un peu de partout sur le territoire français, donc peut-être notre village a moins d'attrait pour des questions climatiques ou pour d'autres raisons.
Dans ce contexte, quel est l'état d'avancement de vos projets, notamment le projet de la commune du centre-bourg?
Alors, quelles que soient les contraintes, quel que soit le manque de retombées économiques, puisque bon, on vient de parler du tourisme, et c'est le principal vecteur de ressources pour la commune de Castellane, hein. Le tourisme, c'est 80 ou 90% de notre économie, directement ou indirectement. On continue dans nos projets, on continue sur notre lancée. Le pire serait de tout arrêter et de se replier sur nous-mêmes. Donc, les gros travaux du centre-bourg continuent, mais pas que, puisqu'on continue à acheter des immeubles pour les réhabiliter, pour rénover le village, pour offrir des possibilités de location à ceux qui voudraient venir s'installer à l'année. La première phase, elle se déroule, elle n'a pas pris de retard pour l'instant, elle en avait pris beaucoup dans la phase préparatoire, mais au niveau des travaux, il n'y a pas de retard. Donc je pense que les appartements seront livrés en temps et heure, même si on est dans de l'ancien et qu'il y a toujours des surprises. Pour l'instant, il n'y a rien de significatif. On a continué nos investissements bâtimentaires. On a acheté notre immeuble. On est en phase de l'acheter. On a acheté aussi des anciennes remises qui devraient être détruites pour donner lieu à une place pour aérer le centre-ville du village. Donc, on continue. J'ai pas mis de dire comme si de rien n'était, mais on continue pour embellir le village et pour le rendre encore plus attractif.
Et vous avez d'autres projets également?
On a d'autres projets, on se rend compte au fur et à mesure des années. D'ailleurs, si vous traversez le village, vous le voyez sur l'axe principal de la commune, c'est-à-dire la rue nationale. Elle n'est pas calibrée pour accueillir des commerces. Et c'est dommage parce que c'était le premier axe commercial de la commune. Aujourd'hui, il reste la pharmacie, le boucher et une alimentation. C'est trop peu. Il y a 3 commerces sur peut-être une trentaine qui sont ouverts. Elle n'est pas sécurisée. Il y a des trottoirs qui ne sont pas dimensionnés pour accueillir des passants, des poussettes, des personnes âgées. Donc oui, on est en pleine réflexion pour s'orienter vers un sens unique, c'est-à-dire que la rue nationale ne ferait plus que se monter et elle se descendrait au niveau du parking Saint-Michel avec la création d'une autre voie qui déboucherait sur la route de Draguignan. Bien évidemment, dans ce contexte, la rue nationale serait reformatée avec de grands trottoirs, et puis un profil de route aussi un peu plus moderne, c'est-à-dire de façon convexe, et non plus cette route que l'on voit actuellement et qui n'est pas terrible, avec un revêtement qui sera aussi fait, qui sera un peu plus haut de gamme. On y réfléchit avec le département, les premières esquisses ont été faites, les études sont faites dans le cadre de Petites Villes de Demain, donc on a eu des financements pour faire cette étude. C'est un dossier qui peut être conflictuel, mais j'ai prévu avant la fin de l'année de faire une réunion publique pour en parler, parce que le sens unique, c'est un sujet qui fait débat à Castellane. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont dans la rue nationale, ceux qui sont contre. Donc on va aller jusqu'au bout de la réflexion parce que la rue nationale, de toute façon, elle ne peut pas rester comme elle est. Aujourd'hui, elle est quasiment morte, si vous me permettez l'expression. Le programme, il est presque plat. Donc il faut absolument trouver une solution pour la rendre plus attractive. Parallèlement à ça, aussi, toujours dans le cadre de Petites Villes de Demain, on a eu des crédits budgétaires pour reconstruire notre centre de secours. Le centre de secours, ici, c'est important. C'est 50 volontaires qui interviennent sur tout le territoire avec 8 employés communaux qui sont conventionnés et qui peuvent partir à n'importe quel moment de la journée. Donc on est la seule commune à pouvoir armer sont le terme consacré, pour pouvoir intervenir. C'est ce qui s'est fait encore vendredi dernier, par exemple, ils sont intervenus à La Rochette. Et pourtant, La Rochette, ça ne fait pas partie normalement des villages que le centre de secours doit défendre. Mais la solidarité doit jouer, ils sont quand même partis. À la fois pour avoir des conditions de fonctionnement normales, entre guillemets, et pour pouvoir accueillir beaucoup plus de véhicules, il fallait refaire ce centre de secours qui est mal logé, mal situé en centre-ville. Et là, on a un projet de le refaire en lieu et place de l'ancien hôpital, avec ce double avantage de supprimer une friche industrielle et d'y mettre un beau bâtiment en entrée de ville pour accueillir le centre de secours.
Depuis 2020, on est dans une situation de crise économique avec une inflation galopante. Est-ce que ça a eu un impact sur les projets de la commune ?
Ah, ça a eu un impact important sur nos finances. On a, comme j'ai l'habitude de dire, la triple peine. La première, c'est que cette crise économique se traduit par une envolée des prix. Alors, sur le fonctionnement, on s'aperçoit, par exemple, que toutes les dépenses liées à l'énergie ont pris entre 30 et 50%. C'est le fuel, c'est l'électricité, c'est le gaz, parfois. Cette crise s'est traduite aussi par des annonces gouvernementales, mais que les communes sont seules à supporter, c'est-à-dire le relèvement du point d'indice et des fonctionnaires. Donc là aussi, on a le prix des matières premières et on a les salaires qui ont augmenté. Donc ça, c'est pour le budget de fonctionnement. Pour le budget d'investissement, c'est pire. C'est les taux d'intérêt qui se sont envolés. On est passé d'une projection pour les emprunts à 0,5% à 4,5%, donc il y a 4 points de plus. C'est les prix qui ont été révisés, qui ont pris entre 20 et 30%. Et la troisième peine, c'est qu'il y a beaucoup d'inertie dans le montage de nos dossiers. C'est-à-dire que quand on fait un dossier, par exemple le dossier du centre-bourg, il a 4 ans. Donc les subventions, elles ont été accordées sur les prix de l'époque. Mais les subventions ne bougent plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'être subventionné à 70% comme c'était prévu il y a 4 ans, par le fait de l'augmentation des prix, on est subventionné à 50%. Ça veut dire que notre autofinancement, il est aujourd'hui de 20% de plus. Et ça, sur une petite commune comme Castellane, avec des marges de manœuvre qui sont faibles, c'est insupportable. Et c'est le discours que je vais porter, si on me laisse la parole, mardi prochain ou mercredi prochain. Il y a la réunion des maires du département à Fort-Calquier. Si le président Spagnou me laisse la parole, c'est ce que je dirais. Il faut aider les petites communes, à la fois sur le fonctionnement et à la fois sur l'investissement, parce qu'on n'a pas les marges de manœuvre pour supporter les impacts de la crise économique, parce qu'on est dans une vraie crise économique. Il y a de l'inflation, il y a de la crise de confiance. Donc il faut à tout prix qu'ils nous aident dans cette situation. Je parle de l'État, bien sûr.
Est-ce que vous avez des temps forts à venir pour la commune ?
Non, là on est plutôt... le temps fort, c'est la saison, c'est avril-octobre, où on est véritablement dans des temps forts d'animation. Là, on est déjà dans la réflexion de ce qui va se passer l'année prochaine. Donc là, les réunions reprennent, on se pose un petit peu, on fait le bilan de la saison, là je l'ai fait succinctement avec vous. On en tirera des conséquences un peu plus affinées, là on est en train de se réunir. Puis c'est la poursuite des travaux, la réalisation des travaux à la fin de l'année.
Vous êtes plutôt serein, confiant pour l'avenir ?
La peur n'exclut pas le danger, donc volontairement j'essaye de rester confiant et serein. Il y a quand même des motifs d'inquiétude sérieux sur les petites communes, sur le positionnement des communes vis-à-vis de leur environnement, c'est-à-dire vis-à-vis des communautés de communes, vis-à-vis des départements. Des fois, on n'y trouve pas bien notre rôle. Vous savez que la loi NOTRe nous a levé la plupart de nos compétences. La dernière qui doit nous être levée, c'est la compétence de l'eau et de l'assainissement. Et là aussi, c'est un vrai combat. J'essaye de le garder en gestion au sein de la commune, parce qu'aujourd'hui, on a des tarifs de l'eau et de l'assainissement qui sont très adaptés. L'eau, chez nous, elle coûte 1,20 €. Si on va dans d'autres communes voisines, je ne dirais pas les noms, mais l'eau est à 4 €. Quand l'eau et l'assainissement sont gérés par des sociétés privées, ça coûte déjà beaucoup plus cher. C'est toutes ces questions de relations, de positionnement. Moi, je ne voudrais pas être, si jamais je devais me représenter, le maire qui gère que l'état civil dans une commune. On nous a levé la compétence touristique, on a essayé de la récupérer. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Là, on a fait classer notre commune et peut-être qu'on récupérera la compétence touristique. Mais on a perdu la compétence du droit du sol, on a perdu la compétence sportive, on a perdu la compétence de la culture. Donc, si vous voulez, tout ce qui faisait comme travaux dans une mairie, ça a été transféré à la communauté de communes. C'est un peu dommage, ça appauvrit l'action que peuvent avoir les maires. Et il y a beaucoup de maires qui ne se représenteront plus, je pense, parce qu'ils n'arrivent plus à se retrouver dans ce contexte. Je pense qu'il y a une vraie volonté de l'État d'avoir le moins possible d'interlocuteurs. Si je prends à l'échelle de notre communauté de communes, il y a 42 maires. C'est plus facile pour l'État ou pour la région d'avoir un seul interlocuteur c'est-à-dire le président de la communauté de communes, que 42 maires, avec 42 personnalités, 42 façons de contester parfois les choses, donc c'est beaucoup plus confortable pour l'État de réduire le nombre de mairies, sauf qu'on s'aperçoit que quand il y a des problèmes graves, comme par exemple le problème du Covid, l'État se retrouve quasi exclusivement sur les maires. Hein. Voilà. Et là, on vous parle du couple État-maire ou préfet-maire. Bon. Mais après, dans les faits, on s'aperçoit qu'il y a une vraie volonté de réduire la compétence des mairies pour les transférer au sein d'organes comme les communautés de communes.